L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Liverpool, 6 juillet 1957. Il est à peine 8 heures. Un adolescent ouvre un œil sur sa vie. À 1 ou 2 kilomètres de là, un autre adolescent va lui aussi s'éveiller paresseusement. Tous deux sont nés à Liverpool, un port qui dynamise son économie depuis qu'il a trempé au XVIIe siècle dans le commerce des esclaves. Ville de docks et de bateaux, porte d'entrée de l'Empire britannique. 9 millions d'émigrants sont partis d'ici vers les États-Unis. Un rêve. 68 bombardements allemands sur Liverpool de 1940 à 1942. Un cauchemar. Ce 6 juillet 1957, il fait déjà plus de 22 degrés. Canicule, crachat, averse, c'est la météo du jour. À part la canicule, cette journée a quelque chose d'exceptionnel, d'unique. Mais rien ne semble le prédire. Deux adolescents de Liverpool, deux teenagers, vont vivre le moment décisif de leur jeunesse et de leur existence. La musique va prendre un nouveau visage, un nouveau virage. L'un s'appelle John Lennon, l'autre Paul McCartney. 8 heures, l'heure âge de mon récit. Ce matin-là, comme les autres matins, leur vie paraît prévisible, paisible, figée même. Ils ne savent rien du monde autour d'eux. Cette même année, le traité de Rome vient d'instituer la Communauté économique européenne. Aux États-Unis, l'écrivain Jack Kerouac publie Sur la route, livre phare de la Beat Generation. Dans 3 mois, les Soviétiques lanceront leur Spoutnik, petite boule dans l'espace, grand boom dans la guerre froide. Mais sur Terre, qu'y a-t-il à conquérir quand on a 15 ans? Chacun de leur côté, John et Paul s'éveillent à peu près à la même heure. L'un des lunettes, l'autre pas. Ils ne se sont jamais vus. Ils sont pourtant de la même ville, presque du même âge et de la même classe sociale. Paul vient d'avoir 15 ans, John est plus vieux de 2 ans. Tous deux descendants d'Irlandais, mais leur vrai point commun est qu'ils font le même rêve. En eux bat le tempo de cette musique nouvelle venue de là-bas. Là-bas, c'est la destination de tant de navires qui s'élancent de Liverpool, la mythique Amérique. Les jeunes marins qui escalent à Liverpool ramènent de plus en plus ces disques, qui enthousiasment autant John que Paul. Sur les pochettes, des noms les font rêver, Bill Haley, son Rock Around the Clock, et surtout, surtout, Elvis, qui déménage leurs neurones avec Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. I'll be so lonely, they could die. La brèche est ouverte, et désolé les vieux, trop tard pour les chansons ringardes. Un monde est en train de naître. John et Paul s'en rendent-ils compte? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce jour de canicule va sonner leur hache de leur destinée. Mais ça, ça, ils l'ignorent tous les deux. Ces deux jeunes ne vont pas mettre plus de 5 ans pour lancer la bande originale de la décennie suivante. Le son, le mode de vie de toute une génération. La jeunesse, la société ne seront plus jamais pareilles. Ils vont inventer des musiques hallucinogènes, des techniques d'enregistrement innovantes. Ils vont imaginer le disque concept, exiger des pochettes d'albums au graphisme novateur, inverser des bandes sonores en cours d'enregistrement. Lennon injectera même dans quelques chansons l'écriture automatique des surréalistes. Ils vont combattre le racisme, militer pour la paix et la légalisation du cannabis, explorer la philosophie orientale et les sons qui l'accompagnent. Pour l'heure, ils ne se connaissent pas, mais cela ne saurait tarder. Ils vont bientôt se lever. Ils ne sont pas du même quartier de Liverpool, ne sont pas de la même enfance, ni même du même amour familial, mais ils s'éveillent ce jour-là dans la même chance, sur un même accord juvénile de guitare. Sans se connaître, ils ont tous deux l'intention de se rendre aujourd'hui à la fête paroissiale de Woolton, dans la banlieue de Liverpool. Traditionnelle fête à l'anglaise autour du clocher de l'église anglicane de St. Peter. À cet innocent et gentil fancifère de Woolton, John est sûr de se rendre. Bah, pensez donc, il doit s'y produire sur la remorque d'un camion avec son groupe de skiffle, les Quarrymen. c'est pas la gloire. C'est qu'un début. John et ses copains ne sont pas de vrais pointures en musique. Ils ne sont que des mordus de rock, et ils y croient. Pour l'instant, ils ne font qu'animer des soirées dansantes et grattent leur guitare dans des bals locaux. À l'époque, tous les jeunes Anglais sont fans de cette nouvelle vague musicale venue de l'autre rive de l'Atlantique. Ils savent que là-bas, Elvis, Little Richard, Gene Vincent, Chuck Berry font sauter les conventions et les oreilles. Sans jamais se croiser, Paul et John vont parfois chez des copains ou des inconnus quand on leur signale qu'ils ont une nouveauté made in USA. Ils filent chez le chansard pour l'écouter religieusement, frénétiquement ou parfois, eh bien, le voler à son propriétaire. La radio britannique, il ne faut pas y penser. Les seuls disques pop qu'elle diffuse ne sont que pure guimauve. Comment voulez-vous décoller à l'écoute de Doris Day, Frankie Lane ou Frank Sinatra? Non, lui restons sérieux. Trop sage, trop barbant, trop vieux. Bah, heureusement, ils ont Radio Luxembourg qui émet en ondes moyennes depuis le continent. Et là, ça déménage. 8h12, leur matinée va commencer, séparés l'un de l'autre de quelques kilomètres. John Winston Lennon s'étire dans son petit lit et jette un regard égrillard au poster de Brigitte Bardot qu'il a punaisé au plafond de sa chambre. « Salut, Brigitte », disent ses yeux de myope. Regarde aussi vers le poster d'Elvis en face de lui. Puis, il passe à son activité favorite. S'adosser à ses oreillers. Mettre son cher cahier à spirale sur ses genoux, mordiller son crayon, écrire, dessiner. Gratter sa guitare. Écrire quoi? Bien de tout. Des histoires drôles, des idées, des rêves, des poèmes, parfois des ébauches de chansons. Sa chambre, c'est son nid. Sa table de travail, c'est son lit. Les idées lui viennent en raz-de-marée. Il écrit vite, réfléchit vite, parle et marche vite. Ses phrases sont rebelles, comme lui. Ses idées anticonformistes. Et ses carnets s'empilent sous sa table de nuit. Le jeune Lennon est fait de mots, d'images, de sons. Il a presque 17 ans, de longs favoris, des doigts calleux à force de gratter sa guitare. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est congé. Rien ne peut plus le réjouir. Bon, normalement, il devrait déjà être en classe depuis longtemps. Son lycée de Quarry Bank est tout proche, 1 kilomètre à peine. Pourtant, l'école et John, ça fait 2. D'ailleurs, dans quelques jours, fini le lycée. Vive les vacances. Il a le temps de paresser au lit. En bas, sa tante Mimi n'est pas encore levée. Il habite avec elle. 3 chats et Sally, la chienne. C'est sa tante qui l'a élevée. Elle est une des sœurs de sa mère, sa tutrice, son ange gardien. Mais Mimi, en fait Marie-Elisabeth, mène John à la baguette. Pas question de relâcher sa vigilance. Elle le surveille dans cette maison toujours propre et rangée. Au moindre désordre, au moindre comportement incorrect, elle punit. Le cœur de l'adolescent penche toujours du côté de sa mère, Julia. Il lui dédiera plus tard une superbe ballade. Le père de John, lui, a disparu. Parti en mer sans laisser un mot. Au milieu des années 40, Julia a confié John à la tante Mimi. Un cœur d'or, mais une pointe de fer. Julia, elle, est svelte, gaie, pétulante. Robe sexy, vernis à ongles, elle est l'inverse de tante Mimi. Malheureusement pour John, elle joue son amour maternel entre absence et présence. Depuis le début de son adolescence, il se révolte contre l'autorité de tante Mimi et se rapproche de sa mère. Il passe parfois un week-end chez elle. Oh, elle a des atouts. Sa beauté, bien sûr, son sens de l'humour, et elle croit au talent artistique de son fils. Elle a compris que cette sensibilité d'écorché vif est celle d'un artiste. Elle sait qu'il a déjà tâté de l'accordéon et de l'harmonica. Elle sait surtout que, depuis l'année précédente, sa première guitare est devenue sa confidente. Atout supplémentaire. Julia possède un électrophone. Elle fait entendre à son fils des disques d'Elvis Presley. Elle lui apprend à jouer du Fats Domino sur un banjo. C'est la voix d'Elvis, écoutée chez sa mère, qui convertit John à la religion du rock. Elvis, un tremblement de terre, une totale liberté, une révélation pour l'ado, sa révolution. Tante Mimi appelle ça du boucan. John s'éloigne d'elle et continue à se rapprocher de sa mère qui appelle son chat Elvis. Il est 9h. Alors John pense à se lever. Il pense surtout à son concert de l'après-midi. La maison du 251, Menlove Avenue, s'éveille à peine. C'est un pavillon de briques avec 7 pièces, plus la chambre de John. Devant, un petit jardin coqué à l'anglaise. Le tout sur la commune de Woolton, comté de Lancashire. L'ado ouvre sa fenêtre sur le grand boulevard à 4 voies. Ouf, bah il fait déjà chaud. Et puis sur toute l'Europe, la canicule continue. Ils vont suer, lui et ses copains, cet après-midi à gratter leur guitare. Le jeune Lennon prend cette prestation très au sérieux. La kermesse paroissiale est le grand jour de l'année pour Woolton. Et c'est la première fois que de jeunes musiciens pop y sont invités. Le pasteur s'est sûrement dit que ce serait pas mal, une petite pointe de rock'n'roll, juste pour attirer un public plus jeune. Ce brave homme n'ignore pas que l'ouragan du rock frappe l'Angleterre et sa jeunesse. Avant le concert, John irait bien rejoindre son lieu secret. C'est à 5 minutes à pied de sa maison. Il est à côté, ce portail qui ouvre sur Strawberry Field. Il y est d'abord allé avec sa tante Mimi. Maintenant, il s'y faufile et va y rêver. Les grilles, un mystérieux parc, une végétation menaçante, un orphelinat de l'armée du salut à l'architecture pseudo-gothique. C'est son coin le plus secret. Après tout, lui aussi est un peu orphelin. Privé plus d'affection que d'aisance matérielle, il va là y soigner sa solitude ou sa mélancolie. C'est un peu son double. Il n'imagine pas que 10 ans plus tard, en février 1967, il enregistrera un hymne à ce lieu, le fameux « Strawberry Fields Forever ». Il y glissera cette confidence. « Nothing is real. Rien n'est vrai. » C'est son credo. La chanson de 1967 est son autoportrait, désir de solitude, besoin de se tenir à l'écart des gens, propre vision du monde. Personne n'est sur le même arbre que lui, y chante-t-il.
That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte le moment, le jour, l'heure où deux adolescents de Liverpool se rencontrent pour la première fois. Ces deux teenagers s'apprêtent à vivre le moment décisif de leur jeunesse et de leur existence. La musique va prendre un nouveau visage, un nouveau virage, car l'un s'appelle John Lennon, l'autre Paul McCartney. Ce 6 juillet 1957, à Liverpool, le thermomètre vient de monter encore de quelques degrés. À 1 ou 2 kilomètres de Strawberry Field et de la maison de John, un certain James Paul McCartney vient lui aussi de s'éveiller dans sa chambre du premier étage. Il a 15 ans. Nous sommes au 20 Fosslyn Road à Allerton. Petite maison de briques sur 2 étages, construite par la municipalité de Liverpool. Modeste, avec son jardin verdoyant et ses jolis rideaux blancs. C'est grâce à l'emploi de sage-femme de sa mère, Mary, qu'ils ont obtenu ce logement plus proche du centre-ville. Chez les McCartney, on a une très forte conscience de la classe sociale. On est une famille ouvrière traditionnelle, d'accord. Issue d'un premier quartier défavorisé, d'accord, mais on est une famille heureuse. On attache une grande importance à la valeur du travail et à la réussite. Paul racontera, « Ma mère était toujours à la recherche d'un meilleur endroit pour nous élever. Le quartier était plutôt bien. » Ma mère voulait qu'on vive dans un quartier un peu chic, parce qu'elle pensait que la fréquentation de gens plus raffinés nous profiterait. Chez les McCartney, on a la télévision. Chez les McCartney, on aime la musique. Leur living est une vraie scène musicale. Il suffit que quelqu'un se mette au piano et toute la famille se met à chanter. Dans les années 1920 déjà, le père a monté son propre groupe. Il encourage le jeune Paul à apprendre le piano. Ce sont les pianistes qu'on invite toujours aux meilleures fêtes, lui serigne-t-il. Merci, Monsieur McCartney. Grâce à votre conseil, nous avons le piano de Hey Jude et de Let It Be. En plus du piano, Paul possède une guitare acoustique marque Zénith qui lui a coûté 5 livres. Pour cet achat, il a revendu la trompette que son père lui avait achetée. Il s'est rendu compte qu'il est impossible de chanter avec une trompette en bouche. Bah, évidemment. Or, il veut devenir chanteur. Mais nouveau problème, il est gaucher. Il doit donc inverser l'ordre des cordes. Cette première guitare, il la gardera toute sa vie dans son studio comme un totem. Beaucoup de dignité donc chez les McCartney avec un esprit classe moyenne. Un drame va pourtant briser ce paradis affectif. L'année précédente, en octobre 1956, cette mère que Paul admirait tant, qu'il trouvait si jolie, est morte d'un cancer du sein. Le voilà, lui aussi orphelin. En cet après-midi torride de juillet 1957, Paul McCartney a lui aussi prévu de se rendre à la fête paroissiale de Woolton. Mais ses intentions sont différentes de celles de Lennon. Lui veut y trouver une nouvelle petite amie. Aucun des deux n'imagine un seul instant qu'ils vont vivre, chacun de leur côté, une journée de légende. Oh, Paul est déjà très branché fille. John également. Ils en sont convaincus, jouer de la guitare permet de séduire plus facilement les filles. Ces deux pubères ont aussi le même fantasme. Il a déjà franchi la Manche et s'appelle Brigitte Bardot. Bébé est sûrement pas la toute jeune reine Élisabeth couronnée 5 ans plus tôt. Bardot assume sa sexualité libérée et ils aiment ça. Corps mince, poitrine généreuse, longue chevelure blonde, petite jupe légère, lèvres pulpeuses. Elle est là, chaque matin, au plafond de la chambre de John. De l'autre côté du Channel, la starlette hyper sexy est en train de révolutionner l'image de la femme. Elle flingue Coco Chanel. L'élégance, je m'en fous complètement. La haute couture, c'est pour les grands-mères. Alors, sans maquillage, cheveux au vent, elle est devenue l'icône sexuelle de son époque. Ce matin du 6 juillet, Paul et John prennent maintenant leur breakfast. Eux sur le plat, saucisses, toast et thé, à l'anglaise, mais pas ensemble. Ils ont quand même un premier point commun. La même sensation d'attendre quelque chose, un rêve ou une pincée d'inespéré qui pourrait accoster au port de leurs 15-16 ans. Mais pour les emmener où ? Ce qui les relie encore plus, c'est leur passion pour le rock'n'roll. La musique de leur temps et de leur âge, ils ne pensent qu'à ça. Cette tornade, venue des États-Unis, a décoiffé la société britannique. Et l'enthousiasme, c'est jeune. Les parents y voient un chaos passager. Ils ont tort. Des éclaireurs sont arrivés. Leur disque continue à traverser l'océan. Le pilonnage a commencé avec Rock Around the Clock et Bill Haley s'installe à la première place des charts, les fameux hit-parades. Deux atomiseurs ont suivi, c'est Chuck Berry et Elvis Presley. Et puis c'était pas tout. Il y en a encore dans la chambre de tir. Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, le pasteur Pennyman, alias Little Richard, un fou indestructible, venu de l'enfer, qui joue du piano presque sur les genoux et qui hurle « Allo bam boum » pour conclure. En avril de cette année 1957, la marque de disques Capitol lance une nouvelle technique d'enregistrement, la stéréo. Les fans vont pouvoir entendre des deux oreilles le nouveau jargon de ces tueurs. Comme ce bebop à Lula d'un certain Gene Vincent, une chanson qui va jouer son rôle cet après-midi. My baby, well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. Stimulés par leurs idoles, Paul et John s'usent les doigts et se cassent les ongles sur leur guitare des heures durant. Surtout Paul, qui imite ses rockers préférés devant l'armoire à glace dans sa chambre. Entre deux cours à l'école, ils mémorisent les paroles de leur tube. S'enferment même dans sa salle de bain parce que le carrelage réverbère mieux sa voix et le son de sa guitare. Cette fièvre permanente ne l'empêche quand même pas de penser qu'il a rendez-vous cet après-midi avec son ami Ivan Vaughan à la fête de Woolton. Il est presque 11h maintenant. Le soleil a cédé la place à une brise humide venue du port. Tout révolté qu'il soit, Lennon est lui aussi devant sa glace. C'est fou ce que ces ados se contemplent dans leur miroir. John est bien décidé à soigner son look pour sa prestation de l'après-midi. Du gel pour plaquer ses favoris aux tempes et coller sa mèche sur le front. Pantalon noir hyper moulant style tuyau de poêle. Il est un parfait teddy boy. La mode est celle de ces jeunes violents, issus des gangs de rue qui secouent la tranquillité anglaise de cette après-guerre. Et pourquoi Teddy ? C'est le diminutif d'Edward et leur style vestimentaire copie la mode de l'époque édouardienne. Devant sa glace, le futur Beatle fait tout pour le ressembler. Quand il descend dans le living, tante Mimi hurle, le traite de vaurien et de hooligan. Explosion, colère, bataille rangée. John est en rocker, un révolté. Il s'habille donc en révolté, point. Et qu'on lui fiche la paix. Il a juste le temps d'entendre sa tante qui lui annonce qu'elle ira cet après-midi à la fête de Saint Peter pour le surveiller. Il claque la porte. Mais pour aller où ? Il s'est mis à pleuvoir. C'est foutu pour la rêverie à Strawberry Field. Il rejoint ses copains, les autres membres du Quarrymen Skiffle Group qu'il vient de fonder en mars. Il joue donc du skiffle, mélange de country, western et de rock. C'est déjà trop vieux jeu pour John. Il entraîne désormais ses copains à explorer le rock pur et dur. Mais pour les emmener où ? 11h32, Lennon, sa guitare à la main, s'éloigne vers l'après-midi. Paul, lui, traînaille à la maison et se sert un verre de lait dans le réfrigérateur Prestcold. Il se dit qu'il est temps de penser à sa tenue pour la fête de Woolton. Il lui faut des vêtements pour draguer les filles de la paroisse. Il a entendu une chanson de variété qui clamait que le dernier chic était un manteau de sport blanc et un œillet rose. Bon, l'œillet, oublions, se dit-il. La veste de sport blanche, il en a une, avec des fils métalliques très fins qui brillent au soleil. Il complète avec un pantalon noir étroit très moulant. Essentiel pour la drague, il le sait. Passons à la coiffure. Les cheveux en arrière, hop. Il les maintient avec du brille crème et cela donne une coupe à la Tony Curtis. C'est quand même plus sexy que la coupe en brosse. Là-bas, à Woolton, le défilé de Saint Peter est prêt à partir. Une foule de gens envahit la pelouse et les environs autour de l'église. John est là, avec ses amis musiciens. Le soleil est revenu. Le spectacle peut commencer. Lennon, lui, s'est déjà échauffé et a éclusé quelques verres de bière anglaise. Son haleine sent l'alcool et la cigarette. Il a du rock dans la tête. Il grimpe sur le cinquième et dernier camion. L'église sonne 14h. Immédiatement, les Quarrymen attirent le regard des jeunes, tout heureux d'entendre la musique qu'ils aiment. Les adultes rechignent, mais finissent par prendre ce bruit avec philosophie. « Oh, ça leur passera, pensent-ils. » Eh bien, pas sûr. Lennon est ravi de jouer devant une foule. Son groupe a un palmarès assez restreint. En juin, ils ont passé une audition pour l'émission TV Star Search et n'ont pas été retenus. Il y a sur le plateau du camion, outre Lennon, un deuxième guitariste, un batteur, un joueur de banjo, deux contrebassistes, très amateurs. En tout, six loustiques qui se déchaînent. Mais Lennon est déçu. Ces gens les voient passer et puis les oublient. Il se sent plus génial quand il compose dans son lit. 14h51, les camions s'arrêtent. Défilé terminé. La fanfare commence son concert. Fini le rock. La fête paroissiale continue. On joue aux fléchettes. Les gosses du catéchisme collectent des dons. Pendant ce temps, Paul, chez lui, enfile sa veste blanche. C'est le succès assuré, pense-t-il. Il attrape sa guitare, dit au revoir à son père et file, lui aussi, vers son destin. 16h15. Les Quarrymen vont maintenant donner un nouveau concert, cette fois sur une scène stable. Lennon déboutonne sa chemise. Il dégouline de sueur. Une dernière bière ruisselle dans son gosier. Il grimpe sur l'estrade, armé de sa guitare. Oui, armé, il n'y a pas d'autre mot. Soudain, la fête paroissiale prend un coup de vieux. Oh, tante Mimi n'apprécie guère. Mais les spectateurs tombent sous le charme de ces jeunes qui en veulent, se démènent, se déchaînent. Applaudissements, sourire de Lennon. À 16h28, Paul McCartney arrive à bicyclette sur la pelouse qui entoure l'église, fringant comme un playboy. Sa guitare sanglé sur le dos. Il aperçoit son copain, Yvan Vougan. Ils vont musarder là où ils pourront repérer des filles mignonnes. Pour nous, la légende est en marche.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte le moment, le jour, l'heure où deux adolescents de Liverpool, John Lennon et Paul McCartney, se rencontrent pour la première fois. Sans se connaître, ils sont tous deux à la fête paroissiale de Woolton. John a quitté la maison en claquant la porte au nez de sa tante qui le traite de vaurien et de hooligan. Paul, lui, a soigné son style vestimentaire en vue de draguer des filles. Encore, rien d'essentiel ne s'est passé pour John et Paul aujourd'hui, ni durant cet après-midi. Mais bientôt, les minutes vont s'impatienter. La chance aussi. Paul, de loin, a aperçu le même son que celui qui bat dans son propre cœur. Du rock. Avec son copain Yvan, il s'avance sur la pelouse. Il s'approche de la scène où Lennon se déchaîne. Incroyable, se dit-il. Il en oublie même les filles à draguer. L'essentiel est là, sur la scène de Fortune. Ses yeux zooment sur le guitariste à une poignée de mètres devant lui. John chante « Come Go With Me », chanson des Del Viking, quatrième place au hit parade américain. Paul connaît. Ce type qui chante a les doigts qu'il faut, pense le jeune McCartney. Il ne regarde que ça. Les doigts de Lennon sur sa guitare. Et puis cette voix, une voix qui crache, qui la serre. Mais en même temps, il se rend compte que le chanteur n'a pas compris toutes les paroles de ce tube américain. Il découvre qu'il les improvise, que ses accords sont ceux d'un banjo. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il improvise bien ! Paul est subjugué. Et de plus, ce gars-là a formé un groupe. Un groupe, tu te rends compte, Vaughan ? Un groupe ! Enfin, un autre lui-même pour qui cette musique signifie la vie. De plus, Vaughan lui confirme. Ah, ce gars-là, il le connaît. Il lui promet de lui présenter. Aimanté par le jeu du jeune rocker, Paul n'a même pas aperçu derrière l'estrade que se dresse l'église Sainte-Marie. Il n'a aucune raison de la contempler, et pour cause. Il ignore bien sûr que le prêtre de cette paroisse s'appelle le père Mackenzie et que dans le cimetière autour de l'église repose une certaine Eleanor Rigby. Il les introduira plus tard dans l'un de ses tubes de 1966. Il y a des prédestinations incroyables.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
« 18h47, fin du concert des Quarry Men. L'estrade se vide. Le groupe va se préparer maintenant pour le bal qu'il va animer ce soir. Mais cette fois, Paul est impatient. Il n'a pas oublié la promesse de son ami Vaughan. Ce dernier le tire par la manche, lui met la main à l'épaule. « Allez, on y va !» Tous deux filent vers l'église où ont disparu John et ses copains. Paul laisse son vélo contre le mur de briques. Vaughan tient sa promesse. Dans la salle d'œuvre, les Quarry Men discutent le coup pour le bal. Avalant bière et sandwich, ils font cercle autour de leur leader. John, satisfait de leur prestation, tient sa cour. Il parade, il est fier. Vaughan et McCartney s'avancent. Vaughan salue son copain Lennon et lui présente un certain Paul McCartney. L'histoire de la musique retient son souffle. Paul, déçu, ne récolte qu'un simple coup d'œil. Accueil distant de Lennon. Salut, ça suffit. Chez les jeunes kids de Liverpool, pas de bienséance. Vaughan explique à son copain John. Voilà un dingue de rock comme toi. Pas de poignée de main. Lennon hoche à peine la tête. Paul reste en retrait, mais ses yeux vont jusqu'à l'intérieur de l'autre. Et le premier, c'est Paul qui se décide à briser la glace et leur silence. Il se lève, va prendre sa guitare laissée sur une chaise. John reste assis, les bras croisés. Il se demande même si ce petit jeune ne ressemble pas un peu à Elvis. Et en plus, il a une guitare. Beaucoup trop jeune pour en tirer un vrai rock. Paul s'accorde et entame sec une chanson d'Eddie Cochran, le plus pur des rockers, le roi du summertime blues. Paul sent que c'est à lui maintenant de prouver ses talents. Il balaye les cordes, débride sa voix, attaque les accords. Au début, John reste de marbre. Pire, il est maussade. Mais petit à petit, il se penche, écoute, sent la musique. Pour la première fois, il se regarde. Et John se dit en silence, « Merde, quel musicien ce gars !» La méfiance fait place au respect et bientôt à l'admiration. Paul est lancé. Il en met plein la vue au chanteur des Quarrymen. Il joue son atout, le bebop Lula, très sensuel, de Gene Vincent. En traduction, ça donne à peu près ceci. Ma poupée, c'est ma poupée. Eh bien, c'est la fille en blue jeans. C'est la reine de tous les ados. Regarde comme elle bouge. C'est la seule que je connaisse vraiment. La seule que je connaisse vraiment. Eh bien, elle a le rythme dans la peau. C'est la seule aux pieds volants. C'est la seule qui se promène autour de la boutique. Bebop Lula. Bon, certes, on est d'accord, c'est pas du Shakespeare, mais au moins ça parle aux ados de Liverpool et du monde entier. Pendant que Paul chante, Lennon craque. Il écoute, apprend, admire. Ce gars n'est plus un rival. Il connaît les justes paroles, il sort les bons accords. Sur sa lancée, Paul en remet, fait le tour du rock pur et dur de l'année 1957 et hurle un medley de Little Richard, de Lucille à Good Golly Miss Molly. À la fin, il lui montre de nouveaux accords et lui copie les paroles de Bebop Lula. Puis, il salue de la main, s'éloigne, à pas feutré du haut de ses 15 ans, suivi de son ami Vaughan. De l'autre côté de Church Road, les filles sont parties. Le vent se lève, l'orage gronde. Il est près de 21h, moins de 2 heures après la rencontre de John Lennon et Paul McCartney. Ce qui s'est déroulé dans la salle de St. Peter tout à l'heure appartient déjà au passé, ou plutôt à l'avenir, à la légende. Car le temps va s'accélérer. Dès l'automne, les deux jeunes musiciens se revoient. Avant de se rencontrer, dans leurs chambres respectives, les deux ados se sont déjà essayés à l'écriture de chansons. John, de son côté, a écrit des poèmes et même des nouvelles. Désormais, ils vont se voir tous les jours. Ils répètent ensemble. Ils vont bientôt composer ensemble.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why? I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Le 18 octobre 1957, Paul fait ses débuts avec les Quarrymen. Il ne faut pas s'imaginer que John et Paul sont des petits saints. Évitons de les sanctifier. John peut être violent et récolte pas mal d'ennuis au lycée de Liverpool. Le jeune boy scout qu'a été Paul est devenu un jeune pur sang qui ne demande qu'à sauter les barrières les plus hautes. Les gens ont toujours pensé et dit que John était l'élément agressif et moi le gentil, précisera Paul plus tard. Mais je peux mordre moi aussi. Et j'ai vraiment en moi quelque chose de dur. Côté sexe, ce sont deux ados normaux et hormonaux. Jouer dans un groupe, c'est aussi pour draguer des filles. Paul se souvient de Liverpool. Après nos concerts, on partait draguer. On se retrouvait parfois à faire ça dans une allée, derrière un garage ou dans une remise. À cette époque, il n'y avait pas d'hôtel ni de motel où on aurait pu faire ça. On ne pouvait pas aller chez la fille non plus, ni chez nous, parce que les parents étaient là. Je me souviens de quelques filles bizarres, dont une qui portait une gaine. C'était un sacré rempart. Tous les jours, les deux jeunes gens passent l'après-midi chez Paul. Il raconte. Mon père finissait son boulot à 17h et arrivait vers les 18h, ce qui nous laissait à peu près 3h. Ça nous faisait une bonne séance de travail. Je m'installais parfois au piano, mais la plupart du temps, on s'asseyait face à face avec nos guitares. On surveillait mutuellement si on faisait le bon accord. On s'asseyait avec un petit cahier d'écolier rempli d'une écriture bleue. J'écrivais tout ce qui nous passait par la tête. Et je précisais toujours en haut de la page « Chanson originale de Lennon et McCartney, déjà ». Ils travailleront de même toute leur carrière commune. Ainsi naîtra en 1958 leur premier tube qu'ils sortiront en 1962, « Love Me Do », surmonté par l'harmonica de John. Ils ne sont pas encore les Beatles, mais leur génial binôme est en charge. Et le courant passe entre les deux. Ils ont du talent, ils vont le prouver. La plus belle aventure pop du XXe siècle est en train de se réaliser. En février 1958, George Harrison, autre gars de Liverpool, intègre les Quarrymen. En août 1960, il trouve enfin une identité, les Beatles, les Scarabées. Peut-être en réponse aux Crickets de Buddy Holly, avec un jeu de mots sur le mot beat, rythme. L'année suivante, ils jouent au Cavern Club de Liverpool, puis à Paris, où ils adoptent un nouveau style de coiffure qu'on surnommera « Coupe Beatles ». À leur retour, ils se produisent à nouveau au Cavern Club, où Brian Epstein les remarque et devient leur manager. En août 1962, un remplaçant s'assied derrière la batterie. Ce sera Ringo. La suite est connue de tous. Elle fait même partie de la légende. Certains diront qu'à l'époque de Liverpool, ils étaient encore purs, plongés dans l'émergence naissante du vrai rock. D'autres affirmeront que c'est après qu'ils vont tout inventer, qu'ils vont semer leur maturité dans l'histoire de la musique pop et la musique tout court. Qu'importe ce débat. Car sans les Beatles dans nos oreilles, quel vide dans la musique, quel silence. Et tout ça parce qu'une après-midi de canicule, ce 6 juillet 1957, dans une gentille fête patronale à l'anglaise, deux adolescents, aimantés par la passion du rock, se sont croisés à leur hache de Liverpool, à leur hache de la musique. Voilà pour ce récit que j'ai eu la chance de vous partager grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.